Donc on va commencer Bezrat Hashem, le chapitre 12 du Tanya, qui est un chapitre central dans le thème du Tanya, comme certains l'ont remarqué, puisque, rappelez-vous que le Tanya, le deuxième nom du Tanya, est Sefer Shel Benonim, le livre des Benonim, le livre des gens moyens. Alors, c'est vrai que quand on a commencé à étudier le Tanya, il y a des gens qui étaient peut-être un petit peu choqués par ce titre.
Voilà, t'as vu, on est là.
Razak. C'est un peu surprenant. On se dit, aujourd'hui tu ouvres un livre, on te dit on va apprendre à être moyen. Aujourd'hui on n'a pas envie d'être moyen, on a envie d'être au top. D'accord, monsieur? Donc on va commencer par Yud Bet. Ce qu'on va essayer d'expliquer dans les derniers rabotails. On vous attend? Allez. Donc ce qu'on a essayé d'expliquer, Bezrat Hashem, pendant les 11 premiers chapitres du Tanya, qu'on a bien développé depuis quelques mois, on a expliqué qu'en fait, on était composé d'une âme divine et d'une âme animale. Nefesh Elokit, Nefesh Abemit. Je refais un topo rapide. On a expliqué que l'âme divine et l'âme animale, les deux sont composés d'une structure qui est pensée, parole, action. D'accord? Donc toujours, il y a la pensée de l'âme divine, la pensée de l'âme animale. La parole de l'âme divine, la parole de l'âme animale, l'action de l'âme divine, l'action de l'âme animale, comme on a pu expliquer longuement. On a expliqué également qu'il y avait des pulsions, il y avait le côté intellectuel, le côté sentimental. Et on a expliqué, enfin, dans les derniers chapitres, chapitre 8, on a expliqué la notion de la guerre, qu'il y avait une guerre constante entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Quelle est la teneur de cette guerre? La teneur de cette guerre, c'est qui va prendre le contrôle du corps. D'accord, vous vous rappelez? Le corps est comme une grande ville, on a expliqué. Et le corps est comme une grande ville, et chacun, il y a un combat. L'âme divine et l'âme animale, les deux veulent prendre le contrôle du corps. Ça veut dire quoi, en d'autres termes? L'âme divine veut que les pensées, les paroles, les actions du corps soient uniquement des pensées, des paroles d'action de Torah. L'âme animale veut que les pensées, les paroles et les actions du corps soient uniquement des pensées, des paroles, des actions de bêtises. Donc il y a un combat. Une fois qu'on a compris le combat, on a commencé à expliquer qui sont les acteurs. Et c'est là qu'on a expliqué qu'en fait, c'est quoi le tzaddik? Nous, on pense que le tzaddik, c'est une personne qui fait plus de mitzvot que de averot. D'après le Tanya, c'est quoi la définition d'un tzaddik? C'est une personne qui, non seulement dans la pratique, ne faute pas, mais encore plus que ça, il n'a pas envie de fauter. Il est dégoûté de la faute. Il n'a même pas la pulsion. C'est pas qu'il a, comme nous, une pulsion et qu'il arrive à la repousser. Le tzaddik, il est dans tel niveau qu'il n'a même pas envie de fauter. Et c'est là qu'on avait expliqué dans le chapitre 8 et 9 la différence qu'il y a entre le tzaddik Vetovlo et le tzaddik Veralo, le tzaddik parfait et le tzaddik imparfait. C'est quand on dit que le tzaddik est dégoûté du mal, jusqu'à combien il est dégoûté du mal? Quand on dit le tzaddik Veralo, ça veut dire qu'il est dégoûté du mal, mais il a un tout petit peu, une toute petite attirance vers le mal, et c'est par rapport à ça qu'on dit, ah, celui-là, c'est pas un tzaddik parfait. Mais ça veut dire que être tzaddik est un niveau qui est très très loin de nous. Nous, à notre niveau, c'est évident qu'on est attiré vers le mal. C'est-à-dire, c'est évident que quand on passe devant une image pas cachère, c'est évident que ça nous fait quelque chose. Maintenant, l'effort qu'on fait, c'est de pas faire attention. Mais c'est sûr que ça nous fait quelque chose. Le tzaddik, il a un niveau que ça lui fait rien. Donc d'emblée, quand on a terminé le chapitre 8 et chapitre 9, on a compris qu'on n'est pas des tzaddikim. En tout cas, moi, j'ai compris que je suis pas un tzaddik. S'il y a des tzaddikim qui se cachent, qu'ils signalent. D'accord?
Après. Levez la main.
Levez la main. Non, c'est vrai. Parce que là, on te dit, c'est même pas seulement qu'il se retient, c'est qu'il est même pas attiré. Là, on comprend que c'est une autre gamme. C'est une autre gamme. Et qu'on comprend que finalement, il y a qu'un très très faible pourcentage de personnes sur Terre qui sont conçues pour devenir tzaddik. Mais ça, on y reviendra plus tard. D'accord? Pour expliquer quel est le but d'Akadosh Baruch Hu dans tout ça, c'est pas le but d'aujourd'hui. Ensuite, dans le chapitre précédent, chapitre 11, on a parlé du rachat. Ça, le rachat, on connaît un peu mieux. On connaît un peu mieux. Mais on a expliqué qu'il y a deux catégories de rachat. Donc on a fait deux cours sur le rachat. On a dit qu'il y avait le rachat parfait et le rachat imparfait. Le rachat parfait, c'est celui qui baigne dans la Avera et qui regrette jamais. Il regrette pas sa Avera, il est à fond dedans. Et il est tellement à fond dedans qu'il est pris dans un cercle vicieux et qu'il s'en sortira jamais. Ça, c'est un rachat parfait. C'est-à-dire que le bonhomme, il est là par idéologie, il fait sa Averot, il est à fond dedans, il baigne dedans, il regrette jamais. On a expliqué la semaine dernière que des rachats par idéologie comme ça aujourd'hui, il y en a très très peu, si ce n'est qu'il n'y en a pas. Ça, c'était on avait terminé l'histoire la semaine dernière. Et que finalement, la majorité des gens entre nous, nous sommes quoi? Nous sommes des, nous sommes des rachats vetovlo. C'est-à-dire, nous sommes des rachats imparfaits. Parce que c'est quoi un rachat imparfait? C'est une personne, par exemple, qui va fauter même une fois par an. Que toute l'année, son Yetzer Hara, il attaque, il attaque, il attaque, il attaque, il attaque. Mais une fois, il a craqué. Donc on dit, puisque une fois tu as craqué, ça veut dire que tu n'es pas un tzaddik. Parce que c'est quoi le tzaddik? Le tzaddik, c'est une personne qui n'est même pas attirée. Toi, tu es attiré, donc tu n'es pas un tzaddik. Alors tu es quoi? Tu es un rachat. Seulement un bon rachat, un rachat qui est très très faible, qui sera jugé certainement comme un tzaddik, il n'y a pas de problème. Circonstance atténuant, tout ce que tu veux. Mais on l'appelait ça rachat vetovlo, ça veut dire un rachat qui est un rachat imparfait. Seulement, où on veut en arriver dans tout ça? On se dit, c'est déjà pas mal, celui qui faute une fois par an, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Nous, est-ce qu'on est capable de lister les avérotes qu'on a fait la dernière semaine? D'accord? Est-ce qu'on est capable, si je vous demande maintenant, liste-moi les avérotes que tu as fait les dernières, d'accord? Les dernières semaines. Impossible de se rappeler, qui se rappelle? Même dans la journée, qui se rappelle? On a oublié. Alors je te dis, ça c'est un rachat. Et c'est là que le Talmud nous apprend qu'en vérité, nous on ne cherchait pas le nom qu'on va donner à la personne par rapport à son jugement, que là effectivement par rapport à son jugement, on est peut-être tous des tzadikim ici, parce qu'on fait plus de mitzvot que d'averot, j'espère.
Oui.
Donc évidemment que dans le jugement, on est tous appelés des tzadikim. On ne parle pas du jugement. On veut parler de la définition intérieure et profonde. Et que dans la définition intérieure et profonde, c'est sûr qu'on n'est pas des tzadikim. Probablement nous sommes des rechaim. Alors dans ce cas-là, bon, on n'a qu'à fermer le livre, à quoi ça sert? Après on perd notre temps ici. C'est là qu'arrive le Tania, qui s'appelle Sefer Shel Benonim. C'est quoi le Benoni? Comment on va le développer aujourd'hui? Le Benoni, c'est une personne qui a des pulsions comme nous. Il a des pulsions exactement comme nous, ça veut dire sur ça, il n'y a aucune différence. C'est-à-dire qu'il passe à côté d'une image pas cachère, son Yetzer Hara, tout de suite, il démarre en quart de tour. Exactement comme nous. Il n'y a pas où aller. Alors pourquoi on l'appelle Benoni? Parce que concrètement, même si son Yetzer Hara démarre en quart de tour, concrètement, il faut le jamais. Et que jamais tu le prendras à fauter. Alors vous allez me dire, mais ça c'est un tzaddik. Je te réponds, je te dis non. C'est ce qu'on va développer longuement dans le cours d'aujourd'hui. On aura au moins 2-3 cours sur le Benoni, hein, parce que c'est un thème central du Tania. Je te dis non, ça c'est pas un tzaddik. Parce que le tzaddik, si c'était un tzaddik, il n'aurait pas dû avoir même pas de pulsion. Or, puisqu'il a une pulsion, c'est une preuve que c'est pas un tzaddik. Donc c'est quoi? Ça peut être un Benoni. Ça veut dire qu'on peut avoir une personne qui, au niveau des actions, est irréprochable, il a fait aucune avéra, et pourtant, on l'appelle Benoni. Rappelez-vous tout ça, il veut nous amener à quoi? Vous rappelez au début du premier cours, le Tania qu'on avait fait? On avait dit qu'une fois, il y avait le maître Rava qui était en train de faire un cours à ses élèves. Et il leur a dit, il a fait un cours à ses élèves. Et il parlait, qui est tzadik? Qu'est-ce que c'est un tzadik? Qu'est-ce que c'est un rachat? Qu'est-ce que c'est un benoni? Et le maître Rava est venu, et il a dit, kegon ana benoni. Il a dit, moi par exemple, je suis un benoni. Alors le Tania, il veut poser la question, il dit, mais comment c'est possible? Comment lui peut penser que c'est un benoni? Lui, Rabba, celui sur lequel on dit que tellement il étudiait la Torah, que l'ange de la mort n'arrivait même pas à le toucher. Tellement il étudiait la Torah que l'ange de la mort, parce que vous savez, on dit que tant qu'une personne étudie la Torah, l'ange de la mort ne peut pas le toucher. Mmh. Et tellement il était en train d'étudier la Torah que l'ange de la mort n'arrivait pas à le toucher. Et qu'à chaque fois, il devait utiliser des stratagèmes pour essayer de faire un bruit par-ci, une distraction par-là, et il n'arrivait pas. Tu crois qu'un tzaddik comme ça, tu vas l'appeler un Benoni? Avec le chapitre d'aujourd'hui, on va comprendre que oui, on peut appeler ça un Benoni. Parce que Rabba se disait, c'est vrai que peut-être concrètement, j'ai jamais fauté. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas de pulsions. Peut-être que j'ai des pulsions, mais que tellement je suis occupé à étudier la Torah que je me rends même pas compte de ces pulsions. Mais peut-être que j'ai des pulsions, donc je peux être un Benoni. Donc ce qu'on va développer aujourd'hui, c'est la définition d'un Benoni. Il faut savoir que chez les Hassidim, quand on dit à quelqu'un que c'est un Benoni, c'est le plus beau compliment qu'on peut donner à quelqu'un. Alors c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un t'es moyen, bah moyen c'est moyen, on n'aime pas moyen, on va être noté au top, d'accord? Mais il faut savoir qu'entre Hassidim, quand on dit que quelqu'un est un Benoni, c'est un compliment énorme. On sait par exemple que le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Brunois, qui était donc le Rav Nissan Emanov, on dit que sur lui, le Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent, quand il parlait à ses élèves, il leur disait, vous voyez cet élève-là, lui c'est un Benoni. Et dans la tête des élèves, le fait qu'on disait sur une, et c'est une personne de grande envergure, hein, que mon père a connue, etc. C'est un tzaddik, pour nous c'est un tzaddik. C'est-à-dire c'est un monsieur, je ne sais pas comment vous expliquer. Quand il commençait à faire cette fila le matin, cette fila durait depuis 7h du matin jusqu'à 2h d'après-midi.
Hein?
Chaque mot de la tefila qui sortait, t'as 50 larmes qui sortent en même temps. Je sais pas comment vous expliquer. Des gens qui l'ont vécu, ça. Vous demandez à mon père, il pourra vous raconter, il a vu à la yeshiva. D'accord? Il était là dans les années 80. Il était là dans les années 80. Alors c'était des gens, qui étaient à un autre niveau, d'une autre dimension. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un Benoni. C'est pas un tzaddik. Pourquoi c'est pas un tzaddik? Parce que, encore une fois, un tzaddik, c'est une personne qui n'a pas de pulsion. Or, le commun des mortels, la majorité des gens, ont été créés pour avoir des pulsions et donc ont des pulsions. Et quand dans le schéma on te dit, Dieu nous dit, vous ne détournerez pas derrière vos yeux, d'accord, Asheratem Zoni Machareem, il parle pour la majorité des gens, que quand leurs yeux voient des choses, ça leur fait quelque chose. Donc ça veut dire que la majorité des gens, s'ils arrivent à être Benoni, comme on dit chez les Chassidim, Alvaï Benoni. Alvaï, ça veut dire, ça serait déjà bien si on arrive à être au niveau d'un Benoni. D'accord? Alors on va essayer maintenant de rentrer, ça c'était juste une introduction, on va essayer maintenant de rentrer dans les détails et d'expliquer finalement quel est le cahier des charges de ce Benoni et que, finalement quelle est la vie au quotidien de ce Benoni, comment il vit au jour le jour. Père et cul de bête. Oui.
On est d'accord ou pas de dire que c'est plusieurs profils là, ils peuvent s'appliquer à chaque mitzvah ou à verra dans...
Alors, effectivement, comme on a expliqué, ça fait quelques cours, que on peut être Benoni sur toute la vie, et des fois on peut être Benoni sur une mitzvah spécifique. Par exemple, il y a des personnes, voilà, il est devenu Shabbat, par rapport au Shabbat, il est devenu Benoni. C'est-à-dire que pour lui, il est d'un niveau que jamais il transgressa. C'est une bonne question ce que tu dis, on va développer ça dans la suite. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est être Benoni sur toute la ligne. D'accord ? On y va. Vea Beinoni, qui est le Beinoni? Donc celui qui nous intéresse, puisqu'on est dans le Sefer Shel Beinoni, c'est quoi le Beinoni? On dit l'Admor HaZaken. Hou, c'est celui. Sheleolam Enara Gover Kolkar. C'est celui que le mal n'est jamais assez puissant. L'Irbosh et Tahirtana, pour conquérir la petite ville. Rappelez-vous, c'est quoi la petite ville? C'est le corps. Tu as dans les mots? Dans les grands, c'est page 162. Pardon, j'ai oublié de préciser la page. Et dans les petits, c'est la page 32. Vous avez dans les mots? Terre et cul de bête. Donc, c'est quoi le Benoni? Hou, c'est celui, Sheleolam Einara Gover Kolkar. C'est celui que le mal n'est jamais assez fort. L'Irbosh et Tahirtana, l'Iklabesh Bagouf la Khatio. Son corps n'est jamais assez fort. Son Yetzerara n'est jamais assez fort. Pour prendre la conquête de son corps pour le faire fauter. En d'autres termes, rappelez-vous, il y a une guerre constante entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Chacun veut prendre le contrôle du corps. Le Yetzer Hara du Benoni, qui est présent et qui se montre présent, n'est jamais assez fort pour prendre le contrôle du corps et faire en sorte que la personne va fauter concrètement. Bamoar, avec son cerveau, ou Bapé, ou avec sa bouche, ou Bishar, Remach et Varim, ainsi qu'avec les autres 248 membres. Parce qu'on peut fauter avec tous les membres. On peut fauter avec ses mains, avec ses pieds, avec sa bouche, avec son corps, on peut fauter avec tous les membres. Et donc, c'est quoi le Benoni? C'est celui qu'il a une pulsion, mais la pulsion n'arrive jamais à être concrétisée. Ni en pensée, ni en parole, ni en action. Alors, en action, c'est passer à la faute. En parole, c'est parler de la faute. Et en pensée, c'est penser volontairement à la faute. Comme on a expliqué la semaine dernière, une personne, dès l'instant où j'ai une pensée de Avera qui monte à la tête et que je continue volontairement à y penser, je suis en train de faire une Avera. Le Benoni, c'est celui qui ne flanche jamais. Jamais ça lui arrive de tomber.
Donc on essaie de le déprogrammer alors pour rester
pas
un
du
peu.
Non.
Ben oui, parce qu'on est programmé comme ça pour faire les fautes, les pulsions, etc.
Alors bonne question. Donc en d'autres termes, votre question, est-ce qu'on peut arriver un jour à être Benoni? Parce qu'apparemment, on a ici affaire à une personne qui a des pulsions, mais qui ne tombe jamais.
Mais qui,
donc
qui,
c'est
qui,
Superman.
Qui peut? Ben justement, hein, ça, là, c'est... ce qu'on me demande d'être, c'est d'être un robot.
Parce qu'à la limite, voilà. C'est facile d'être un tzadik, t'as pas de pulsions. C'est très facile d'être rachat aussi.
Non, mais même dans la définition du Benoni, d'après ce que vous venez de dire, dans la définition du Benoni, finalement, on me demande d'être un robot. Voilà, de lutter contre tout ce qui est naturel.
Non, je suis pas un robot parce que j'ai des pulsions.
Eh ben, justement. Non. Il faut annuler ces pulsions que j'ai en moi. Pour justement que le Etzerara n'arrive pas à prendre le contrôle de mon corps.
J'ai pas dit que je les annule. J'ai dit que je ne les suis pas. Mais ils sont là, ils m'accompagnent toute ma vie.
Je les combats.
Et donc finalement, c'est pour ça que quand on lit ce Perek là, vous allez voir progressivement, on va comprendre qu'en vérité, le Benoni, c'est la star du Tania. Pourquoi? Parce que c'est facile d'être sadique. Une personne qui est conçue pour avoir un moteur qui n'a aucun problème, évidemment qu'il ne fera pas de faute, c'est normal. Alors, il y a peut-être d'autres challenges, mais c'est même pas louable, il n'y a rien de particulier. Être rachat, c'est facile, exactement. Mais là, on parle d'un Benoni. Le Benoni, il a des challenges exactement comme nous. Et pourtant, concrètement, il ne faute pas. Ça veut dire qu'en d'autres termes, il faut comprendre la chose suivante. Des fois, vous voyez des gens, des Talmidei Chachamim, des gens qui concrètement ne fautent pas. Vous les voyez étudier la Torah toute la journée. Et tu te dis, celui-là, mais c'est évident qu'il étudie la Torah toute la journée, il n'a pas de pulsion. Eh bien, sachez que des fois, des gens comme ça, ils ont des très très grandes pulsions, peut-être même plus fortes que nous. Et que c'est un combat constant qu'ils ont, de se retenir, de ne pas faire de bêtises, de ne pas regarder des bêtises. Il ne faut jamais se fier aux apparences. C'est pas parce que dans l'apparence, je le vois ultra religieux, ultra occupé par sa Torah, que ça veut dire qu'il n'a pas de pulsion. C'est ça la force du Benoni. C'est que extérieurement, tu le vois, tu dis c'est un tzadik. Extérieurement, on est incapable de faire la différence entre un tzadik et un Benoni. La seule personne qui sait la différence, c'est lui à l'intérieur et à Kadosh Baruch Hu. Lui à l'intérieur, il sait qu'il n'est pas tzadik parce qu'il sait qu'il a des pulsions négatives. Mais pour les gens tels qu'ils le regardent, ils disent c'est un tzadik celui-là. Donc c'est un combat qui s'arrête jamais. D'accord? Oui.
Juste Pour le cas de Rachlakish, parce que c'est le premier exemple qui me vient en tête.
Oui.
Donc, c'est un brigand de, oui. avant de devenir un tzadik. Donc, est-ce qu'il peut avoir vraiment un statut de tzadik, puisque de base, il a des pulsions, puisqu'il a fait, il a fait beaucoup d'avérot au début de sa vie.
Oui, mais le tzadik, c'est celui qui arrive à supprimer ses pulsions.
Donc, il a 25 ans.
Ça veut dire qu'il n'en avait pas au début. Et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas les retrouver.
Comment
c'est non. C'est le tzadik, c'est une personne qui a un moteur qui est conçu pour être capable de supprimer, d'accord, d'enlever la pièce. Il enlève la pièce. Il supprime les pulsions, mais il peut les ramener. On a vu dans l'histoire des grands tzadikim comme Rabbi Yochanan Kohen Gadol, qui était un tzadik, d'accord, et qu'il est retombé. Parce qu'avec le libre arbitre, le tzadik peut essayer d'enlever les pulsions et de les remettre. Personne ne lui enlèvera ça. Mais il peut essayer de les enlever. Chose que nous, on est incapable de faire.
Alors, c'est pas un tzadik, c'est pas quelqu'un qui n'a pas de pulsions, c'est quelqu'un qui est capable de les supprimer.
Qui est capable de les supprimer ou de les éteindre. On, off. Tu vois, il a mis off. Ouais, il marche plus. Ça, on n'est pas capable de le faire, nous.
Mais dit comment on sait qu'il les a éteints. C'est lui qui nous dit qu'il les a éteints.
Ah oui, bien sûr, il n'y a que Dieu qui le sait.
Peut-être qu'il nous raconte un...
Mais bien sûr. Quelqu'un qui me dit que je suis tzadik, je ne le crois pas, moi.
Non. Parce que tu sais que c'est difficile.
Qu'on dise de lui qu'il est tzadik.
Un tzadik, il ne dit jamais qu'il est tzadik. On sent qu'il est tzadik. Ok.
On peut pas à l'intérieur de lui pour savoir.
Personne peut savoir.
Qu'il n'a pas de pulsion.
Personne.
Pas qu'il en a et qu'il les combat, qu'il en a même pas.
Qu'on donne un exemple d'un tzadik en général, on prend des grands tzadikim comme Rabbi Pinto, Baba Salé et tous les autres. Pour nous, c'est ça le prototype du tzadik. Nous, on n'arrivera jamais à leur niveau.
On n'est pas conçu pour ça. Et on ne doit pas arriver là-bas. C'est pour ça que le Sefer s'appelle Sefer chez le Benonim. On dit, chez les Chassidim, on dit que l'Admour Hazaken a écrit un deuxième livre qui s'appelle Sefer chez le Tzadikim.
Ah,
un livre des tzadikim, mais qu'il a été brûlé. Parce que vous savez, il y a eu un grand incendie à Lubavitch. Ça fait à peu près 180 ans, je crois, environ. Il y a un grand incendie qui a ravagé beaucoup de livres, beaucoup de manuscrits qui n'avaient jamais été édités. Et on dit qu'un de ces manuscrits, c'est un livre qui s'appelle Sefer chez le Tzadikim. Alors chez les Chassidim, en tout cas chez les rabbis du Chabad, on dit que s'ils ont été brûlés, c'est-à-dire que le moment n'était pas venu pour qu'on les étudie. Il y a plein de livres qui ont été brûlés, des manuscrits comme ça qui n'ont jamais été édités. Parce que vous savez, à l'époque, ça coûtait très très cher pour imprimer un livre. C'est pas comme aujourd'hui. Il y a n'importe qui imprime un livre, raconte n'importe quoi. À l'époque, pour imprimer un livre, ça coûtait très très cher. Alors on y va. Donc il dit ici l'Admour Hazaken, finalement c'est quoi le Benoni? Le Benoni c'est celui que concrètement, le Yetzer Hara n'a jamais pris le contrôle de son corps. Il ne le prend pas. Rak shlosha levushe nefesh elohit, em levada mitlapshim baguf shem marshava dibur maase shetarek mizat haTorah. Donc je viens de l'expliquer à l'oral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez le Benoni, les trois seuls vecteurs qu'il connaît, pensée, parole, action de l'âme divine. Une pensée de l'âme animale, une parole de l'âme animale et une action de l'âme animale, le Benoni ne connaît pas. Maintenant, écoutez bien la phrase qu'il va dire après, parce que ça, c'est une phrase qui est pas facile à comprendre, qu'on va devoir commenter. Il nous dit la chose suivante. Velo avar avera miyamav. Le Benoni n'a jamais fait de avera de sa vie. Velo yavar leolam, et il en transgressera jamais. Ça, c'est compliqué ce qu'il nous dit là. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si une personne a déjà fait de avera dans sa vie, d'accord, il peut plus jamais devenir Benoni.
Il sera jamais Benoni, ouais.
Et ça veut dire aussi, qui peut donner des garanties que jamais on fera des fautes? Comment il peut dire quelque chose comme ça qu'il n'a jamais fait d'avéra de sa vie et qu'il en refera jamais? Qui te dit qu'il en refera jamais? Exactement, à partir de quel âge ça compte? Alors les chassidim, ils expliquent comme ça. Ils donnent un machal, ils donnent un exemple pour illustrer ça. Ils disent qu'en vérité, quand on dit qu'il n'a jamais fauté et qu'il ne va jamais fauter, ça veut pas dire que concrètement il a jamais fauté. C'est pas ce qu'on veut dire. C'est qu'il est à un niveau que c'est comme si qu'il a jamais fauté. Je vais expliquer ce que je veux dire. Je vais donner un exemple très simple pour vous, et vous allez voir avec l'exemple, on va comprendre. Imaginez par exemple, si je vous parle de manger Kippour. C'est évident dans la tête d'un juif, on va dire, même traditionnaliste, que à Kippour, on mange pas. Il n'y a même pas de challenge. C'est même pas que le Tzahari m'attaque et dit, peut-être cette année Kippour, on va manger.
C'est normal.
D'accord? Il n'y a pas, c'est une évidence. Et ça veut dire que dans ma tête, c'est évident que depuis tout le temps, j'ai jeûné Kippour, sauf si j'étais malade, et c'est évident que jusqu'à 120 ans, j'ai jeûné Kippour. C'est une évidence. Maintenant, peut-être que Chas v'Shalom, un jour, je quitterai la Torah. Chas v'Shalom. Peut-être, rien ne peut me garantir. Mais dans l'état actuel où je suis maintenant, si tu me poses la question maintenant, je te dis, mais jamais je peux rater un Kippour et jamais rater un Kippour, c'est impossible. Et bien imaginez que le Benoni, il est comme ça pour toutes les mitzvot, pas que pour Kippour. Pour toutes les mitzvot, il dit, mais c'est possible qu'avant c'était un grand rachat, qu'il a fait une teshuvah. Mais il a un tel niveau qu'il dit, mais jamais j'ai fauté, jamais j'ai fauté. C'est-à-dire tellement ça a des années-lumière que ça lui parle même pas, ça l'intéresse pas. Vous imaginez le travail qu'il a fait? Hein? Non, c'est pas un tzadik. Parce que le tzadik, il n'a plus de pulsion. Lui, il a encore les pulsions, mais ça lui viendrait jamais à l'esprit de craquer une pulsion. Mais la pulsion est là.
Mais est-ce qu'un tzadik a déjà fauté au moins une fois dans sa vie?
D'accord? Tu vois la différence?
Je sais pas parce que, par exemple, à Kippour, moi, c'est vrai, je pense à des hamburgers dans ma tête. C'est ça la pulsion ?
Non, mais jamais ça te viendrait à l'esprit de manger.
C'est quoi la pulsion ?
Non. Ça veut dire, même si t'as une pulsion de manger ton hamburger, en bonne santé, d'accord ? Jamais tu te diras, peut-être que ce Kippour, je vais craquer. En commençant Kippour, c'est évident que tu vas pas craquer.
Non, mais il faut trouver un resto ouvert.
C'est de penser au hamburger.
Non, la pulsion, c'est l'idée qui me vient à la tête, d'accord ? Et après, qu'est-ce que j'en fais ? Okay. Tu comprends? Donc, en vérité, par rapport à manger Kippour, on est tous des bédonis. C'est évident pour nous que jamais on mangera Kippour, même si j'ai une pulsion de manger, même si j'ai très faim. Eh ben, imagine-toi que le bédoni, il est comme ça pour tout. Il a la pulsion, mais c'est tellement évident dans sa tête qu'il faute pas.
Il résiste à la pulsion.
Que c'est pas chouette pour lui que jamais il fautera et jamais il va refauter. Mais pourtant, la pulsion est très forte. Est-ce que vous voyez le paradoxe? Ça veut dire que c'est évident qu'il fautera pas et qu'il a jamais fauté, mais pourtant, il a une pulsion qui peut être très puissante.
Il résiste à la pulsion.
Et je vais vous dire plus que ça. On va expliquer plus tard que peut-être la pulsion du Benoni est encore plus forte que la nôtre. Pourquoi? Parce que le Yitzhara, quand il voit que ça marche pas, quand il voit qu'il arrive pas à le faire tomber, il met le paquet, il lui sort les bombes atomiques, il lui sort les gros problèmes, pac, il explose, et il attend, il dit, on va voir s'il va sauter. D'accord? Et plus le Benoni ne craque pas, et plus le Yitzhara essaye d'envoyer des challenges encore plus compliqués. Ça veut dire que ce qu'on comprend d'ici, c'est que c'est possible que le Benoni souffre encore plus que nous à l'intérieur. Parce que nous, le Yitzhara, il nous fait tomber facilement. C'est compliqué ce qu'on est en train de dire ici. Et ça, sans qu'on soit capable, nous, extérieurement, de voir ce qui se passe à l'intérieur. Impossible pour moi de savoir, quand je vois la personne extérieure, de savoir le combat intérieur qu'il a en lui. Pourquoi? Parce que là, je touche à une autre idée qu'on développera plus tard dans le Tanya, une idée très importante, c'est l'idée de la pudeur. Chez les chassidim, la pudeur. La discrétion, la pudeur. D'accord? Ça, c'est une notion de base chez les chassidim. Qu'on ne fait jamais de tménique. Et même quand on est à un niveau, et même quand on fait un combat, on n'est pas là en train de bouger, en train de faire des salamalek. Ça n'existe pas. La discrétion. Ça, c'est une base dans la chassidut Rabat. Une grande base. Et donc, c'est pour ça que je voulais que tu peux avoir une personne qui, en vérité, il a un combat intérieur ultra puissant. Et peut-être qu'une autre personne se remet là et dit « Oh, Ribbono de Shaolam, sauve-moi !» Lui, rien. Même dans son regard, tu vois rien du tout. Parce que c'est entre lui et Akadosh Baruch Hu.
C'est dangereux, c'est tout pour lui.
Non, c'est pas garde tout pour lui. C'est dans le sens, c'est entre lui et Akadosh Baruch Hu. Alors, il va consulter son Ra, il va consulter, etc. Mais ça veut dire que on n'est pas là en train d'avoir ce qu'on va appeler plus tard des blitotes. Blitotes, ça veut dire des dépassements, tu vois, des dépassements dans le sens « je me fais remarquer ». On supporte pas ça. On va expliquer plus tard pourquoi. Hein. On va expliquer parce qu'une des manières de l'Itzar de nous faire tomber, c'est avec justement le fait qu'on s'enorgueille. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Pourquoi je vous explique ça maintenant? Pour expliquer qu'en fait, entre le Benoni et le Tzadik, c'est possible que le Benoni ait un combat très puissant, mais personne ne le saura parce qu'il ne le montre pas. Personne, même pas sa femme, même pas ses enfants, personne. À part son Rav, à part Akadosh Baruch Hu, personne ne le saura.
Mais il y a que lui qui se définit comme Benoni.
Mais lui, il se définit pas. Non, c'est un état de fait.
Ouais, d'accord. Mais alors,
pour lui.
Qui lui donne un diplôme comme quoi?
Personne. Il y a pas de diplôme.
Alors comment?
Il y a pas de diplôme.
Alors comment déterminer que ce monsieur est Benoni?
Mais le monsieur, il travaille. Lui, il travaille. Il a pas besoin qu'on lui donne des notes. C'est nous qui essayons de prendre du recul et d'essayer de créer des catégories.
Alors.
Pour me situer moi par rapport à tout ça.
Ouais, bon.
Personne peut répondre à ma place. En tout cas, moi, quand je vois ça, je sais que je suis pas Benoni, je sais que je suis pas tzaddik, et je sais que je suis dans la gamme rachat, tu vois. Bon, peut-être un rachat un petit peu plus supérieur, tu vois, mais je suis Benoni, c'est énorme.
Parce que nous, il nous colle un match de foot, le passe de Guémarin, hein. Très facile, comme un rien, c'est
clair. Hier, j'étais à un Fabringen. Hier soir, j'étais à un Fabringen, anniversaire de mon beau-frère. Et vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'hier soir, il y avait un match, d'accord?
Ouais, la France, hein.
Et les gens qui...
Il y avait un match hier soir?
Je sais pas, il paraît qu'il y avait un grand match. Et, écoutez l'histoire. Et les gens qui étaient au Fabringen, c'est pas des gens comme ici, bas au Hachem, qui sont religieux, qui sont chômeurs Shabbat. Là-bas, il a commencé là-bas, hein. Il est à Soisy sous Montmorency, donc il a principalement des gens de Montmorency. Il a deux chômeurs Shabbat dans toute sa communauté. Et quand il est venu, il en avait zéro. Ils ont commencé, ça fait deux ans. Mais ils viennent Shabbat déjà à la choule. C'est une communauté d'une vingtaine de personnes. Il a commencé à zéro. C'est-à-dire qu'il est parti taper aux portes. Et moi, je l'ai suivi. Hein. Alors, en fait, donc ils lui ont fait un anniversaire surprise, et tu les voyais tous, ils étaient là, ils sortaient les portables, ils regardaient en 3G le truc, etc. Et l'autre, il faisait Fabringa, il regardait comme ça, et tu les voyais comme ça, et ils se retenaient. Et après, tu me dis, il y a eu 3-0, c'est ça? Alors,
oui!
Après, à la fin, il a réussi à les tenir de 8h30 à 10h, 10h moins quart. Après, à la fin, ils ont dit, bon, écoute, c'est la mi-temps, il faut qu'on rentre à la maison. Ils sont tous partis chez un voisin qui est chez un qui habite dans le coin, ils sont partis finir le match. Et c'est Messi, pour moi, c'est Messi Route Nefesh, ces gens-là. Ils sont là pour eux, c'était Messi Route Nefesh. Parce que pour eux, c'était tellement rater un match de foot, c'est tellement une chose qui était, pour eux, c'est un Messi Route Nefesh qu'ils ont fait. Ah, ils n'arrivaient pas à se retenir. Et du coup, quand un, il sortait son portable pour regarder en 3G, t'es juste regardé,
moi.
Tout ça pour montrer quoi? Pour montrer que finalement, c'est quoi le Benoni? Le Benoni, c'est celui qui concrètement ne faute pas. Concrètement, il n'a pas de pulsion. Et il est à un état que, jamais ça lui vient à l'esprit que jamais il a fauté et jamais il fautera. Peut-être qu'il a fauté, mais il est dans un état d'esprit que jamais ça lui viendrait à l'esprit de fauter. Il est complètement ailleurs de tout ça, bien qu'il ait des pulsions. Et donc du coup, velo nikra alav shem racha afilu sha'achat veregachat kolyamav. Du coup, ce Benouni là, il n'est jamais appelé racha, parce que rappelez-vous, on a expliqué la semaine dernière qu'une personne qui faute par exemple une fois par an, à l'instant où il a fauté, il est devenu racha. C'est-à-dire que sur l'année, on va dire, bon, tu es un rachat à 0,001%, mais tu es quelque part un rachat. Lui, il est 0% rachat. Ça veut dire qu'il n'a jamais fauté. Zéro. Aucune avéra. Mais il a les pulsions. Afilu sha'a achat, verega achat, kol yamav. Il n'a pas fauté, ne serait-ce qu'un seul instant, kol yamav toute sa vie. Alors, vous savez, on dit que chez les chassidim, on dit qu'en vérité, une personne, des fois, il y a des balais teshuva, qui passent par ce stade-là. On connaît des balais teshuva que quand ils ont commencé à faire teshuva, pendant quelques temps, des fois, ça dure une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, un an, d'accord? Ils sont dans une phase comme ça, que, comme on en a parlé plusieurs fois, tu lui dis, il y a une mitzvah à faire, à 4 heures du matin, il est là. Ça veut dire que le bonhomme, il va jamais faire aucune avéra, il est dans un état d'esprit que tellement il est dans le feu de la teshuva, que aucune avéra lui parle, et dans sa tête, c'est tellement loin que jamais il aurait fait d'avéra. Seulement, le problème, c'est qu'en général, les balais teshuva, voilà, ça va tenir une semaine, deux semaines, un mois, etc. Mais après, malheureusement, on retombe. Alors que là, tu as le Benoni, c'est une personne qui ne retombe pas. Il est constamment en train de se battre avec son Yetzara et une Fujian.
Ça, c'est possible, c'est accessible à tout le monde, ça?
Tout le monde peut le devenir.
Surtout au début.
Alors, c'est une très bonne question ce que tu poses. La question qu'il va poser plus tard, elle va dire, qui nous dit que c'est possible? C'est un peu la question de M. Benita. M. Benita a posé une très bonne question tout à l'heure. Il a dit, mais finalement, c'est la nature humaine. C'est-à-dire que la nature humaine, normalement, elle fait qu'il y a des pulsions. Je veux dire, si on devrait faire des statistiques, on sait par exemple que si une personne il s'est retenu 95% des fois, c'est déjà pas mal. Donc c'est naturel de craquer, c'est sûr qu'on craque. Aucune machine n'est infaillible, ça n'existe pas. D'accord ? L'infaillibilité n'existe pas. Alors la question, c'est un peu votre question, je vous pose un peu la même question, mais dans d'autres termes, c'est quelque part, est-ce que c'est possible ce qu'il nous raconte ici ? C'est impossible. Parce qu'on parle d'une personne ici qui est infaillible, c'est impossible. Personne n'est infaillible.
C'est pour ça que j'attribue ça à « il faut être un robot ». Voilà.
Alors, c'est une très bonne question. Voilà. Ce qu'il va expliquer dans la suite du Pérec, mais je ne réponds pas à la question tout de suite, il va expliquer qu'en vérité, Dieu nous a donné les outils pour être infaillible sur l'action. Pas pour être infaillible sur les pulsions, ça nous lâchera pas. Mais Dieu nous a donné les outils et on va expliquer c'est quoi ces outils. Il y a un outil qui est très clair et que tout le monde a. Personne peut dire je ne l'ai pas cet outil. D'accord? On va expliquer. On y arrivera plus tard. C'est un outil, d'accord? Biologique que Dieu a donné à tout le monde. Juif comme goy. Tout le monde a cet outil et que personne peut dire je ne suis pas capable.
La matraque.
Seulement, vous allez voir, bon. J'ai dit biologique. Hein. On va avancer. Ah, cependant... t'inquiète pas, chaque époque avait ses... Chaque époque avait ses... Oui, non, je sais pas. Ça a changé, tu sais, à l'époque, le Yetzer Hara, il était plus intellectuel. À l'époque, le Yetzer Hara, c'était les gens, ils faisaient tout pour... Le Yetzer Hara, dans les yeshivot, qui les attaquait, c'était le Yetzer Hara intellectuel. C'est-à-dire qu'on cherchait à leur faire quitter la Torah pour aller chercher d'autres sciences, etc. On les attaquait intellectuellement. C'est ça, la Haskala. L'émancipation, c'était par la Haskala. Oui. Aujourd'hui, c'est pas ça ce qui attire les jeunes. Aujourd'hui, avec quoi on faute avec les pulsions. Beaucoup moins qu'avant. Mais c'est plus un Yetzer Hara comme avant. C'est pas ça ce qui va faire quitter quelqu'un la Torah. C'est pas ça ce qui va faire quitter quelqu'un de la Torah. Peut-être. En tout cas, c'est plus Yetzer Hara d'aujourd'hui. Yetzer Hara d'aujourd'hui est plus lié aux pulsions. C'est-à-dire que chaque génération a son Yetzer Hara. T'inquiète pas, chaque génération a son Yetzer Hara qui correspond. C'est écrit ça. C'est écrit que, mais d'un autre côté, on a aussi les moteurs qui va avec. C'est écrit que... Ah bien sûr, évidemment. C'est écrit que lorsque le Midrash raconte que Kadosh Baruch Hu, il a présenté à Adam Harishon toutes les Neshamot jusqu'à la fin des temps. Et quand Adam Harishon il a présenté les Neshamot de notre génération, c'est-à-dire la génération de la fin des temps, c'est écrit qu'Adam Harishon il était jaloux de nous. Il a dit, j'arrive pas à comprendre comment ils vont tenir.
Jaloux.
Comme ça, il dit, mais forage. Hein. Clair, le Midrash dit clairement. Il dit, ineni mekanebem. Il emploie le terme kin'a, jalousie. Il dit, je comprends pas comment ils réussissent. Il parle de nous. Enfin, de nous. J'espère qu'on est les derniers parce qu'on voit plus on avance dans les générations et plus. D'accord ? Voilà.
Mais tout le monde dit qu'il y a un renouveau en ce moment.
Moi, je parle des générations.
Depuis quelques années.
Évidemment qu'il y a un retour vers la Teshuva, d'accord. Mais il faut comprendre qu'il y a un siècle d'aujourd'hui, la majorité du Ham Israël était religieux. Bien sûr. Historiquement, la majorité du Ham Israël était religieux. À peu près chez les Sfaradim, chez les Ashkenazim, tu remontes à 150 ans si tu veux. Mais la majorité était religieux.
Ils n'avaient pas tellement la possibilité d'aller ailleurs.
C'est passé vite alors.
Très vite. Bah oui. Donc c'est facile de dire un retour vers la Teshuva, mais il faut voir tout ce qui est tombé aussi. C'est une réalité ce que je vous dis. La majorité du Ham Israël était Shomer Shabbat. Bon, peut-être qu'ils n'étaient pas des érudits, d'accord, c'est pas grave.
Par la force des événements, ils sont on est tombé.
Voilà.
Avec la Shoah et tout, ça a fait tomber.
On est tombé très très bas. On est tombé très très bas.
Parce qu'on n'essaie plus de nous convertir.
Non, les périodes d'émancipation.
Je ne rentre pas dans les raisons. Bon, c'est pas notre but. Donc il dit, je continue. Ah, cependant. Ma'ud va'atzmut nefesh Elohit en esaprinotea lo lahen le va'adan amlucha v'amshala be'irtena. Donc parlons du Benoni. Rappelez-vous ce qu'on a expliqué dans chapitre 3, chapitre 4 et chapitre 5. Qu'est-ce qu'on a expliqué ? On a expliqué que nous avons la structure interne de l'homme. Dans cette structure, il y a 3 facultés intellectuelles, 7 facultés sentimentales. D'accord ? 3 facultés intellectuelles, à savoir Chorma, Bina, Da'at. D'accord ? Donc la compréhension, le développement et Da'at, c'est l'attachement intellectuel. Et après, il y avait les 7 pulsions. La bonté, l'amour, la rigueur, etc. Ce qu'on a expliqué longuement. Je ne reviendrai pas dessus. Et on a expliqué... que de la même manière qu'on a cette structure de 10 sphirotes du côté de l'âme divine, on a la même chose du côté de l'âme animale. Donc ce qu'il veut t'expliquer ici, il te dit, le Benoni à la différence du tzaddik, c'est que finalement, le Benoni, il a les deux moteurs qui fonctionnent encore à plein régime. Et de la même manière qu'il a une pulsion de vouloir aimer la Torah, le chesed de la Torah, il a aussi une pulsion de l'autre côté qui va le pousser à aimer les bêtises. De la même manière qu'il a la chorma de la Torah, de l'autre côté, il a la chorma des bêtises. Il a les deux moteurs qui tournent à plein régime. Seulement, pourquoi on l'appelle Benoni? Parce que même si les moteurs tournent à plein régime, et donc les pulsions arrivent à plein régime des deux côtés, d'accord? Voilà les pulsions.
Là, il y a du...
Partie du côté gauche. Alors, même si les pulsions arrivent de chaque côté, eh ben, ça ne change pas, que le Benoni, au niveau de la pensée, parole, action, qui sont les 3 vecteurs d'expression de la personne, et que c'est la seule chose sur laquelle un homme a le libre arbitre, ça, il va pas fauter dedans. C'est la seule chose. C'est-à-dire que je peux pas maîtriser d'avoir envie de quelque chose ou de pas avoir envie. Je peux pas maîtriser de dire, je vais aimer que la Torah et je vais pas aimer les bêtises. Parce que ça, c'est les deux moteurs qui sont ancrés en moi, ils sont innés en moi et je peux pas les toucher, c'est impossible. À moins que je sois sadique. La seule chose que je peux maîtriser, c'est pensée, parole, action qui sont les vecteurs d'expression. Donc finalement, le Benoni, il a un moteur comme nous. Et donc son moteur tourne à plein régime. C'est ce qu'il dit ici. Il dit que les 10 sphirotes, ça veut dire les 10 attributs qu'on a expliqués, ça veut dire les facultés intellectuelles et les facultés sentimentales, 3 facultés intellectuelles, 7 facultés sentimentales que le Benoni a, qui sont du bon côté et du mauvais côté, âme divine, âme animale, et ben finalement, le Benoni ne peut jamais les maîtriser, ne peut jamais éteindre son Yetzara. Ça n'existe pas. Donc il ne peut pas être comme David Améler. Rappelez-vous, on avait dit dans le chapitre 10 que David Améler a dit « Velibi halal bekirbi ». Il a dit « Mon cœur est vide à l'intérieur ». Et qu'est-ce qu'a expliqué la Gemara Brachot ? Elle dit parce que David Améler a réussi à tuer son Yitzhara. Ça veut dire que du coup, il aime que les bonnes choses, il n'aime pas les mauvaises choses. C'est fini. Il est attiré intellectuellement par les bonnes choses, il n'est pas attiré intellectuellement par les mauvaises choses. Il a éteint son Yitzhara. Le Benoni n'est pas capable de le faire. Donc le Benoni, finalement, ce qu'il va retenir, c'est seulement... Ce qu'il va retenir seulement au niveau de l'action, qu'est-ce qu'il va faire? Donc je vais revenir sur une idée qu'on a expliqué un peu la semaine dernière, mais qu'on va développer maintenant plus longuement. Finalement, on devrait s'imaginer comme si Kadosh Baruch Hu nous met en tant qu'acteur, parce qu'on est des acteurs, on n'est pas des figurants nous. On est des acteurs, mais il te met en plein milieu d'un film. D'accord? Il te balance, hein, comme on a dit la semaine dernière, 38 minutes, 42 secondes, en plein milieu d'un film. Et il te balance en plein milieu. Maintenant, tu ne peux pas maîtriser le passé, ça veut dire... Comment jouer les acteurs avant, qui c'est qui est à côté de toi, qui sont les bons, qui sont les mauvais. Les faits sont là, d'accord? Le décor est là. Et toi, tu es l'acteur et tu l'as décidé si tu joues bien ou tu joues mal. Et ben, c'est un peu ça ce qu'on est. Ça veut dire que quand je descends dans le monde et quand voilà, je grandis, j'ai un décor qui pousse avec moi et qui m'accompagne toute ma vie. Ce décor, c'est mon Yetzer Tov et mon Yetzer Hara, qui m'accompagneront toute ma vie. Quelle est ma marge de libre-arbitre? C'est, je peux décider d'écouter un ou d'écouter l'autre. C'est tout. Je peux décider de penser, parole, action, donc les trois vecteurs, et c'est moi qui décide de quoi je veux penser, de quoi je veux parler, et qu'est-ce que je veux faire. Ouais, rien reste, d'autre à part ça.
Mais il reste quand même les pulsions.
Que je peux pas enlever. C'est vrai.
C'est ça, l'art de la connaissance du bien et du mal.
Il y a pas, les pulsions, on peut pas les supprimer. Mais c'est quoi une pulsion pour vous, monsieur Benita?
C'est une envie, une...
Oui, une... Mais à quel moment vous appelez une pulsion? Donnez-moi un exemple.
Je sais pas.
On va parler d'un...
J'ai faim, je passe devant une boulangerie, je vois des beaux cadeaux, des beaux gâteaux.
Donc c'est quoi la pulsion?
Bah voilà.
C'est quoi la pulsion?
De... Désir, bah, c'est des envies, des plaisirs.
Donc vous avez envie de rentrer?
De rentrer, de manger, de...
Ça c'est voilà. Le stade de la pulsion.
C'est pas droit, là. C'est pas...
D'accord. Alors, et c'est quoi le... Et après, qu'est-ce que vous allez faire?
Eh ben, je vais consommer.
D'accord. Et quand vous allez consommer, vous êtes en mode... Vous
ben,
êtes...
Je vais me rassasier, ben, je vais être en paix avec moi-même.
Ah, d'accord. D'accord. Je sais pas. Mais, alors, je vous pose la question. À partir de quand vous avez eu le libre-arbitre de décider, est-ce que je le fais ou je le fais?
Ben, avant de rentrer.
C'est tout. Est-ce que maintenant, quand vous êtes passé devant, vous avez le libre-arbitre de décider, ce gâteau est dégoûtant?
Ouais, mais...
Non, vous l'avez pas, celui-là.
Non,
vous l'avez pas.
Attends, si tu vois le prix du gâteau...
On peut le répéter.
Oui, ça peut...
Ça peut être dégoûté intellectuellement. On a beau répéter 10 000 fois quelque chose, ça ne changera rien. Ça veut dire que ça, c'est l'approche de la chassidoute, par rapport à d'autres approches. Dans l'approche de la chassidoute, on dit, t'as beau répéter à une personne 10 000 fois, assour, il va dire, mais je l'aime. Qu'est-ce que tu me racontes? Il va dire, mais c'est dégoûtant, c'est sale, c'est pas beau. C'est pas répété. C'est pas parce que tu répètes quelque chose 10 000 fois que ça devient une vérité. Alors c'est vrai qu'on appelle ça de l'autosuggestion. Qu'à force de répéter quelque chose, tu te convaincs. Mais après, à un moment, ça revient à la charge. À un moment, tu arrêtes, mais qu'est-ce que tu racontes des bêtises? Tu vois non, pas que c'est bon?
Mais quand la raison l'emporte, ça va. Si passer dans le boulanger qui était non caché,
c'est vrai que c'est bon.
Pour le gâteau de
oui, bébé, bien sûr. Ça veut dire, et c'est ça, je pense qu'avec ça, on peut répondre à une contradiction dans la Guémara. D'un côté, on sait qu'il y a la notion, par exemple, que quand on parle à beaucoup de gens du cochon, le cochon pour eux, c'est dégoûtant. Ah, et pour eux, ils s'imaginent un cochon qui traîne dans la boue, ouais, qui traîne, etc., des excréments. Comme ça, ils s'imaginent. D'accord? Attendez. Et d'un autre côté, c'est parce qu'on a été éduqué comme ça. D'un autre côté, qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara a dit qu'une personne n'a pas le droit de dire que le cochon n'est pas bon.
Ah ouais?
Ouais. Écoutez bien.
Parce que c'est
attendez.
Bon dans le cochon. T'as jamais goûté. T'as jamais goûté, donc je peux pas.
Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Tout est bon dans le cochon, messieurs. Alors. Qu'est-ce qu'on doit dire pour le cochon? Dit la Gemara. La Gemara a dit, un homme n'a pas le droit de dire iafchi. Je ne veux pas du cochon. Je n'aime pas le cochon. Il doit dire afchi. Je veux le cochon. Ou maïsé, qu'est-ce que je peux faire? Chez Lokai, chez Bachemaïm, Gazar Alaï. Que mon Dieu qui est dans les cieux m'a décrété, il m'a interdit de ne pas le prendre. Pourtant, on voit dans d'autres endroits, dans lesquels quand on te parle du cochon et d'autres aliments interdits, on te parle ça comme un dégoût. Alors, comment on peut expliquer la différence? La différence, c'est que ça dépend le niveau dans lequel on est. Si on a un niveau dans lequel on a une éducation et qu'on est arrivé à un niveau, effectivement, que manger pas cachère, ça me dégoûte, quoi, la cavote arrive à ce niveau-là. Mais t'as des gens qui n'arriveront jamais à ce niveau. Par exemple, des gens qui ont connu, qui savent ce que c'est, t'as beau lui répéter 10 000 fois le cachère est meilleur, il te dira non, désolé, en cachère on fait pas ce qu'on fait pas cachère. C'est tout. Et tu le convaincras jamais. Il te dira je le fais parce que Dieu m'a demandé, mais ne me raconte pas des histoires. Et même s'il va répéter 10 000 fois que le cachère c'est pas bon, c'est bon pardon, c'est le meilleur, à un moment le tsar ouvre la chaîne, je lui dis mais arrête tes bêtises, tu vois bien que c'est faux. Ça veut dire que finalement, la pulsion et le ressenti profond, on pourra jamais le supprimer. Impossible. Par contre, la seule marge de libre arbitre, c'est je décide, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je faute ou je faute pas? Ça, je le décide.
Et le haram, lui, là, il arrive à maîtriser sa pulsion.
Bien sûr.
Le tzadik.
Le tzadik, il n'a plus de pulsion.
Alors, il fait aucun effort.
Le tzadik, il n'a plus de pulsion.
Oui, il a moins de
mérite. Il a fait, mais non, il a fait plein d'efforts.
Il a moins de mérite.
Mais toute sa vie, il en a fait des efforts.
Non,
sa
mission. Même pas le tzadik.
Il en a fait plein.
Sur les arbitres, sur d'autres éléments. Pas sur les pulsions négatives. Oui, toujours avec la pulsion. Mais on s'en expliquera après. C'est quoi la pulsion d'un tzadik?
Il en a pas, on a dit.
Il n'a pas des pulsions négatives, mais après ça on va expliquer après quelle est sa marge de challenge. Où est son challenge? C'est dans le positif par rapport à différentes choses. Mais ça, c'est pas le thème.
On laisse un petit peu pour les autres.
Qu'on a dans le pas cachère, on peut l'avoir aussi
en cachère. En cachère, oui.
Donc, tu vois qu'on peut contrer les pulsions. Elle lui a dit, je veux manger du bassin berhalal, elle avait envie de manger.
Écoute, un substitut de crevette n'est pas une crevette.
Tu peux retrouver le goût de la crevette. On ne connaît pas parce qu'on est
on sait plus. Bah, on ne connaît pas.
On peut retrouver le goût de la crevette dans un aliment cachère.
Tu prends, invite une fois un goy à un restaurant cachère et sers-lui notre viande qui est cachérisée. Et regarde sa réaction.
Il va pas aimer, elle est pas saignante.
Il va te dire, mais c'est pas de la viande ça.
C'est le caoutchouc.
Les
les Français, justement, ils aiment beaucoup les viandes cachères.
Alors peut-être, non, 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 j'ai pas de problème. Oui, parce qu'ils savent qu'elle, etc. Mais je sais pas, viande cachérisée. Parce que voilà, parce que Akadosh Baruch Hu nous a protégés. Et Akadosh Baruch Hu, il veut pas, par exemple, puisque je parle du sang. Akadosh Baruch Hu nous a protégés du sang, parce qu'il sait, Akadosh Baruch Hu sait que le sang peut nous causer beaucoup de tort. D'accord? Ça peut nous amener une nature négative. Donc il nous l'a interdit. Mais de dire qu'une viande saignante n'est pas bonne, je pense que c'est une bêtise.
Il nous a pas privé des choses.
D'accord?
Une viande saignante, on en mange un cachère des viandes saignantes.
Rien à voir avec les goyim. Tu la manges, grillée, etc. Rien à voir. Ouais. Baruch Hashem! Dis Baruch Hashem!
D'où tu sais, toi?
Parce que je sais, c'est écrit clairement.
Mais attends, mais quand tu dois affirmer des choses, c'est que tu as testé avant.
À vous. Enfin, la viande saignante.
Non, c'est pas lui qui a testé, c'est le livre.
Le lit qui était
tout à fait autorisé de manger la viande saignante, même crue, hein.
Oui, cachérisé.
Bah oui, il y a plus.
Donc cachérisé, donc voilà, donc c'est fini. Bon, je continue. Tout ça pour dire quoi? Pour répondre à la question, pour dire qu'en vérité, le Benoni continue à avoir des pulsions. Ces pulsions sont innées, il pourra jamais les supprimer. Et pourtant, pourquoi on l'appelle Benoni? Parce qu'il flanche jamais. Il ne suit jamais ses pulsions, ni en pensée, ni en parole, ni en action. On va continuer un peu. Alors, il dit, est-ce que ça veut dire que quand on est Benoni, on a constamment des pulsions? Il dit non. Il y a certains moments dans lesquels le Benoni n'a pas de pulsions. Ah bon? Alors pourquoi il est Benoni? Et ça, en vérité, ça peut nous arriver à tous. Par exemple, Ki'im be'itim mezumanim. Le Benoni, à certains moments spécifiques, ça peut lui arriver d'avoir uniquement des pulsions négatives, positives. Notamment, Kemo be'sha'at kriat shema utfila. Par exemple, quand il est en train de faire le shema et la tfila. Le shema, c'est le shema, et la tfila, c'est l'amida. Que là, le Benoni, comme c'est une personne qui, toute la journée, il galère, etc. À un moment, cette fila peut être tellement puissante que le Yetzarara, il comprend qu'il ne faut pas qu'il parle maintenant parce qu'il va se faire déchirer. Donc ce Yetzarara le laisse tranquille. Et ça peut arriver. Et c'est pour ça que je vous dis, je pense, à mon humble avis, je pense que c'est pour ça que les chassidim du niveau de Rav Nissan, et beaucoup de chassidim comme ça, ils passaient des heures à faire la tfila. Mais quand je vous dis passer des heures, c'est 5, 6 heures, 7 heures. Parce que tant qu'ils étaient dans la tfila, ils étaient quelque part protégés de mauvaises pulsions. D'accord? Bien sûr, c'est pas le but. Mais ça veut dire que tant qu'ils étaient dans la tfila, ils étaient quelque part en mode sadique. C'est un autre niveau.
Oui,
d'accord?
Enfin bon, dans ce cas-là, il n'est pas confronté aux mêmes tentations que les autres, etc.
Peut-être.
Il est dans un cocon, alors c'est normal que, non. Bon, il peut pas faire de faute.
Tant qu'il prie. Mais après, qu'il prie, ça retombe.
Et il passe toute la journée à être dans le cocon, alors, et voilà.
Ah, vous inquiétez pas, il ressort après. Ça, on retourne aux explorateurs. Alors. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la tfila? Et ça, je pense que c'est un enseignement qu'on peut tous apprendre pour nous aujourd'hui, même si on, peut-être, je ne sais pas si on deviendra Benoni, mais l'enseignement qu'il va nous donner ici, il nous donne déjà une première technique. Rien à voir avec la technique biologique que j'ai dit tout à l'heure. Il nous donne une première technique, il dit, il y a des moments dans la journée dans lesquels les choses passent plus facilement, dans lesquels tu peux plus facilement convaincre, d'accord, ton corps de faire la volonté du Yetzer Tov. C'est quoi ces moments? C'est par exemple quand tu fais ta tefila et quand tu fais ton schéma. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il dit quelque chose de très simple. Il dit, quand on est en train de faire le schéma et la tefila, c'est ce qu'on, en haut, dans les sphères célestes, c'est un moment de mochin de gadlout. C'est quoi mochin de gadlout? Mochin de gadlout, c'est-à-dire c'est un moment dans lequel il y a, alors je vais traduire littéralement, ça veut dire l'intellect de grandeur. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi il parle ici? Il faut qu'on explique un petit peu.
Un état sublime.
Quelle est la différence entre un enfant et un adulte? On a des fois des enfants qui sont extrêmement brillants. Depuis qu'il est petit, tu vois, il a 3 ans, 4 ans, 5 ans, il est brillant. L'enfant, il est brillant, tu vois, dans ses yeux, il a les yeux qui brillent, il est brillant. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Il va s'énerver pour une bêtise. Tu te dis, mais comment un enfant tellement brillant, il peut s'énerver pour une bêtise pareille?
Parce que c'est un enfant.
D'accord? Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? On voit un adulte qui n'est pas spécialement brillant, et qui il est capable de comprendre qu'il y a des choses pour lesquelles il faut s'énerver, il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas s'énerver. Quelle est la différence entre les deux?
La maturité.
La grandeur du cerveau. Le cerveau se développe. C'est pas parce qu'une personne a un cerveau brillant que son cerveau est développé. On peut être brillant sans avoir le cerveau développé. Vous savez, des fois, il y a des gens qui sont très brillants, qui sont extrêmement intelligents, mais qui sont bêtes. C'est-à-dire, dans la vie de tous les jours, des remords. Tu l'envoies faire une course, il n'est pas capable de ramener ce que tu lui as demandé. Il est incapable. Pourquoi? Non, mais sérieusement, pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette maturité. Il est brillant, mais il n'a pas cette maturité. Hein, comme la fameuse image d'Einstein qui... Pourquoi il tirait la langue? Hein? Se moquer de qui?
Danny Briand est brillant.
Donc, je reprends. Ce qu'il dit ici, c'est que de la même manière que chez nous, on voit que quand on était enfant, il y a des choses, on peut être même brillant, mais il y a des choses pour lesquelles on s'énervait, qui étaient bêtes, et quand on grandit, on comprend qu'on n'aurait jamais dû s'énerver pour ça. Eh bien, c'est un peu la même chose pour nous dans notre vie de tous les jours. quand on est dans la vie de tous les jours, pas pendant la tefila, on est un petit peu comme cet enfant, qui des fois peut être brillant. Ça veut dire que des fois, Baruch HaShem, il est très religieux, mais que finalement, son Yetzara va le faire tomber pour des bêtises. Comme le petit enfant qui va s'énerver pour une bêtise. Il y a des moments dans la journée dans lesquels on passe en mode grand. On est comme un enfant qui a grandi. Et là, quand c'est un enfant qui a grandi, automatiquement, tu comprends qu'il y a des choses que c'est insignifiant. Ça veut dire que le Yetzara, pourquoi il ne viendra pas déranger ce chassid-là pendant cette fille-là? Pourquoi il ne viendra pas te déranger ce Benoni pendant cette fille-là? Parce que le Benoni, il a un tel niveau de compréhension et de développement intellectuel qu'à ce moment-là, quand tu lui proposes une bêtise avec une femme ou avec je ne sais quoi, il est tellement à des années-lumière de ça que ça ne lui parlera même pas. Donc le Yetzara, il dit celui-là, c'est pas le moment de lui en parler. Parce qu'il est comme l'enfant qui a grandi. Quand il a grandi, il comprend qu'il n'y a pas lieu de s'énerver. Mais ça, vous comprenez, ça dure seulement quelques instants. Ça dure seulement quand on fait la tefila. Et encore. Et encore. Et encore. À l'époque de la Gemara, ils arrivaient, directement, ils ouvraient le livre pour faire Shema et l'Amida, directement, ils arrivaient à passer en mode Mochin de Gadlout. Ça veut dire en mode que maintenant, on passe aux choses sérieuses et que maintenant, on s'occupe des choses sérieuses et que le reste, c'est insignifiant. Nous, aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau-là. Nous, aujourd'hui, d'accord, il nous faut beaucoup, beaucoup de préparation. Et quand on voit l'histoire de la tefila, comment la tefila a été composée, on voit qu'à la base, au début, il n'y avait que le schéma et l'amida. C'est que nous. Après, avec le temps, les rachamim ont rajouté les brachot du schéma.
Mais c'est à cause de ça.
D'accord. Hein. Après, les rachamim, d'accord, pourquoi ils ont rajouté les brachot du schéma? Parce qu'ils se sont rendus compte que les gens n'étaient plus capables d'arriver direct, de passer directement en mode, comme on explique ici, en mode élevé, en un coup. C'était trop sec, ils n'étaient pas capables. Donc les rachamim ont dit, on va leur rajouter les brachot avant le schéma, depuis Yotzer Or, Vore Rocher. Après, les Chachamim se sont rendus compte que ça marchait toujours pas, que c'est pas suffisant. Ils nous ont rajouté Psuke des Imra Ishtabach. Puis Baor Shamarch Ishtabach. Dans lequel on parle de quoi? On parle de la grandeur de Dieu, de la grandeur de la nature, de la grandeur des anges. On parle de beaucoup de choses pour essayer de, d'éveiller, d'accord? D'éveiller l'imagination. Pour essayer de faire en sorte que quand on arrive au schéma, ça décolle. D'accord? Après, les Chachamim se sont rendus compte que même ça, ça suffisait pas. Ah, ils ont rajouté avant Hodou. Ils t'ont rajouté avant Lectoret. Ils t'ont rajouté avant tout ce qu'il y a avant, toutes les psychotes qu'il y a avant. Et progressivement, ils rajoutent, après les maîtres de leur chassidoute sont arrivés, ils ont dit, ça suffit pas, la tefila, ça suffit pas. Maintenant, il faut étudier chassidoute avant la tefila. Voilà pourquoi le Shabbat matin, on a un cours de chassidoute avant la tefila. Et plus on avance dans la génération, et plus on doit rajouter. Pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce que, pourquoi? Tout ça pourquoi? Pourquoi? Parce que, en vérité, notre but, c'est quoi? Notre but, c'est d'arriver à un moment dans la journée, au moins un moment dans la journée, dans lequel on est conscient quelles sont les choses importantes et quelles sont les choses insignifiantes. Il faut au moins un moment dans la journée qui est comme ça. Ce moment, c'est le moment du schéma et le moment de la tefila. Donc, pour revenir au Benoni, le Benoni, toute la journée, il est comme nous, il a ses pulsions. Il y a un moment dans la journée dans lequel il n'a pas ses pulsions, c'est quand justement il est en mode grandeur. C'est quoi le mode grandeur? C'est quand il fait son schéma et sa tefila. Et donc, pour arriver à ce schéma et sa tefila, il doit se préparer très longtemps. Et comme on l'a vu chez les chassidim, parce que je vous dis des choses que j'ai vues quand j'étais même à New York, que j'ai vues partout, dans beaucoup d'endroits, on voyait des fois des chassidim qui passaient des fois 3 heures à étudier avant la tefila. 3 heures, tu le vois. Pas à discuter, étudier. Ça veut dire qu'il est là, il lâche pas le livre. Et des fois, tu le vois comme ça. Il réfléchit. Il peut passer une demi-heure à réfléchir, à penser à la grandeur de Dieu. Et après, il commence à faire la tefila. Tu vois l'introduction de la tefila, il prend du temps. Et quand tu vois qu'il arrive au schéma, t'as l'impression que là, il prend l'accélérateur. Tu te dis, mais attends, c'est pas possible. Le schéma, c'est là le plus important. Parce que c'est comme un avion, une fois qu'il a décollé, il a décollé. Le but, c'est quoi? C'est de décoller. Et ça prend tellement de temps de décoller que, selon les jours, des fois, le chassid, il sent qu'il a besoin de plus de temps. Alors, imaginez-nous combien on est à des années-lumière de ça. Que des fois, ça peut nous arriver, on s'est levé, on est fernu, on a mis les tefillines, on a fait la tefila, on est reparti. Et tu n'es même pas rendu compte que tu as fait ta tefila. Tu es déjà reparti. Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait là? D'accord?
On n'a pas le temps.
Le matin, d'accord. On est tout franc, on vient de se réveiller. Donc on aurait dû faire une petite rap pas très grande. Mais à Mincha, où on vient du boulot, qu'on vient de la rue, on aurait dû faire une.
Ah, mais non, au contraire, parce qu'il faut prendre des forces le matin pour affronter la journée.
Oui, t'as pas besoin de faire de petits rats tellement importants.
Mais bien sûr, il faut des forces pour affronter la journée. Je vais expliquer ça plus tard. Que c'est ces forces-là, la force du matin, qui va me permettre d'être bon toute la journée. C'est à quoi ça ressemble? C'est comme le sentiment qu'on a après Kippour. Que quand t'as vécu un bon Kippour, pendant au moins, je sais pas, au moins quelques heures ou quelques jours, j'espère, d'accord, t'es encore sous l'emprise de Kippour. Et ben, nous, ce qu'on essaie de faire avec la tefila, quand on fait une bonne tefila, c'est que si t'as fait une très bonne tefila le matin, on espère que jusqu'à la prochaine Amida, c'est-à-dire jusqu'au Mincha, au moins tu seras encore sous l'emprise. Et c'est ça l'espérance du Benoni. Le Benoni dit, j'espère que d'une tefila à l'autre, je vais garder l'influence de la tefila. Ce qui n'est pas toujours le cas, bien sûr. Et toujours le Tzara qui revient à la charge. Donc ça veut dire quoi? On apprend ici une première technique. Première technique, qu'il y a des moments clés dans la journée dans lesquels on peut, si vous voulez, mettre à plat le Yetzarara et prendre des bonnes décisions plus facilement que d'autres moments. D'accord? C'est pour ça qu'après la tefila, c'est plus important. On arrive plus facilement à prendre une bonne décision parce que le Yetzarara, il a pris un coup sur la tête. on était dans une situation dans laquelle on était sur une autre planète. On était dans une situation dans laquelle j'ai compris que il y a des choses qui sont insignifiantes. D'accord? On va développer encore un petit peu.
Ça, c'est pour toute la semaine, mais quand c'est en période de Shabbat, ou
pareil, ou, encore plus.
C'est amplifié normalement.
Bien sûr.
Mais, parce que là, il a encore plus de temps pour.
Moi, j'ai vu des gens, je vous dis, j'ai vu ça à New York, j'ai vu des gens, ils venaient depuis 7h du matin, tu vois, ils étaient là. Ils rentraient chez eux à 3h, 4h de l'après-midi. Et sans Fabringen, hein. Ils ont fait que la tefila. Si, mais comment il fait? Alors, vous imaginez la concentration qu'il faut pour être capable de rester 8h sur la même place?
Mais alors, ça veut dire qu'il a.
Moi, j'ai tenté à Paris-New York, lui, il est là, il est encore à sa place.
Mais parce qu'il lise lentement ou il lise beaucoup de choses?
Non, parce que d'abord, parce qu'il se prépare beaucoup avant. D'accord? Parce qu'il médite beaucoup à la grandeur des Kadosh Baruch Hu. Et après, quand il lit, chaque mot, il pense, chaque mot, il essaye de penser au sens profond du mot et ça en prend beaucoup de temps. Mais c'est très compliqué.
Alors,
nous, quand on était à la Yeshiva, la Rabbanim, il nous disait qu'à défaut d'être à ce niveau, il nous disait au moins essayer au moins une partie de la tefila d'être comme ça. Au moins une partie. Par exemple, première bracha de la Amida, ou le schéma, ou même le premier passage du schéma, d'essayer de vivre un morceau de la tefila. Ça, c'est à la portée de tout le monde, ça. Ça veut dire d'arriver à un niveau dans lequel il y a une chose dans laquelle, d'accord, tu te dis, je suis à une autre dimension, je suis ailleurs. D'accord? C'est comme, vous savez, c'est comme le sentiment qu'on peut avoir après Kippour, ou après Simcha Torah. Quand vous sortez dehors, vous êtes Bessimra, et vous voyez dehors des soulards dans la rue en train de. Donc tu dis, quelle est la différence entre nous et eux? Eux aussi, ils sont Bessimra, aussi, ils ont bu. Mais t'es tellement dans une autre planète, t'es dans la Simcha de la Torah, que t'es ailleurs. T'as des années-lumière.
On est plus déchirés que.
D'accord?
Mais alors, ce monsieur-là qui passe 8 heures à faire cette fille-là, alors il l'a fait tout le temps tout seul, il l'a fait pas avec le Kahal?
Bonne question. Il la commence avec le Kahal. Il prie à la choule. Il a commencé avec le Kahal.
Ouais, mais s'il va avec une cadence comme ça, il peut pas
se faire. Alors, il faut commencer la tefila avec le Kahal. Une fois que tu as commencé avec la tefila avec le Kahal, même si tu n'as pas fait toute la tefila, tu es considéré comme si tu as fait tefila avec Tzibur. Une fois que tu as décollé avec le Kahal, c'est tu es parti avec le Kahal.
Mais moi, même dit, je comprends pas à quoi ça sert de faire ça. Je veux dire, on n'a pas été créé pour faire des prières, quoi. Toute la journée.
Tu as raison, parce que mais après, je comprends ta question.
Il y a des gens qui doivent faire ça, qu'on a besoin d'eux, ça c'est sûr.
Mais le Benoni, il sent que pour arriver le restant de la journée, alors maintenant je vous dis 8 heures maintenant, c'est des gens qui étaient déjà à la retraite. D'accord, bah oui, c'est des gens qui étaient à la retraite, évidemment.
Mais même.
Chez les Chassidim, par exemple, il y avait des gens qui toute la semaine, ils priaient comme tout le monde, et dès qu'arrivait le Shabbat, c'est là qu'ils priaient 5-6 heures. Tu comprends?
Pas tous les jours.
Là, bien sûr, ils travaillent, c'est des gens qui travaillent. D'accord. On encourage le monde du travail, évidemment. On travaille chez les Chassidim. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils attendaient toute la semaine et toute la journée ce moment dans lequel ils pourront un petit peu s'élever de la nature, être plus haut que ce monde. Et là, c'est le seul moment que le Benoni n'est pas attiré par les pulsions négatives. C'est le seul moment. Mais après, dès qu'il sort de la synagogue, pac!